Que Dieu soit béni.
Amen.
Voilà, vous m'entendez bien? C'est bon? Que Dieu soit béni. Alors, juste aussi un petit côté matériel, pour ceux qui veulent un reçu fiscal, ceux qui ont donné le prendre par chèque ou par virement, voilà, vous nous dites, là, on les connaît déjà, les autres, peut-être, ou on ne sait pas, enfin voilà, n'hésitez pas. Que Dieu soit béni. Proverbe 31, si je vous dis Proverbe 31, vous me dites quoi? La femme de... D'accord? Oui, mais dans Proverbe 31 aussi, il y a les conseils d'une mère à son fils qui est roi. Mais on en a parlé déjà mardi. On va regarder plutôt la femme vertueuse et je vais dire l'église vertueuse. Proverbe 31. Proverbe 31, verset. On va prendre le coup quand même. Ça, vous aurez un peu les conseils qui avaient été prodigués au roi Lémuel. Et puis surtout, on va s'adresser à la femme vertueuse qui pourrait très bien être la femme du roi. D'ailleurs, l'église, c'est la femme du roi.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Pour le moment, elle est fiancée. Elle est fiancée. Vous savez que les fiançailles, normalement, quand on est engagé, on est engagé. Hein. C'est pas pour vous dire après, je veux plus. Donc, c'est pour ça que chez les juifs, quand on est fiancé, c'est comme si on était marié. Toutefois, on ne bouge pas ensemble tant qu'on n'est pas marié. Aujourd'hui, hein. Mais qui veut écouter la parole de Dieu doit se soumettre à la parole de Dieu. Bien, c'est un auditeur oublié. Proverbe 31. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui est dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des bancs et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen.
Amen.
Voilà, il nous est dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Là où se traitent les affaires de la ville, là où se traitent les affaires de la justice, son mari est considéré non pas seulement en raison de ses propres qualités, mais aussi grâce aux qualités, à la bonne réputation de son épouse. Alléluia.
Amen.
La bonne attitude de sa femme, ses multiples qualités, tout cela contribue à la bonne réputation du mari et il est respecté. Et nous comprenons l'application si nous comprenons que l'Église est l'épouse, que Jésus est l'époux, et bien sûr que l'époux, lui, n'a aucun défaut. Néanmoins, les gens vont juger trop souvent, sans doute, mais c'est comme ça, Vous jugez des choses de Dieu par rapport à l'attitude de l'Église. Si l'Église a une bonne attitude, ça va rejaillir positivement sur l'Évangile. Et quand l'Église se comporte mal, vous comprenez évidemment que ça amène les gens à blasphémer. Et ce qui est vrai pour l'Église collectivement est vrai aussi pour chaque chrétien. Chaque chrétien a un impact sur la manière dont les gens vont considérer le Seigneur Jésus. Et si nous avons une bonne attitude, nous allons honorer réellement le Seigneur. Vous savez, honorer le Seigneur, c'est pas venir simplement le dimanche matin chanter. Si dans la semaine on vit dans le péché, dans le désordre, bah écoutez, je suis désolé, mais on déshonore le Seigneur. Hein. Et c'est pas la balance, on va pas dire, je viens rattraper le dimanche, Seigneur, je vais te chanter des cantiques, tu vas voir, ça va être super joyeux. Non, c'est notre vie au quotidien qui doit contribuer et qui constitue finalement un culte. La Bible dit qu'on doit offrir nos corps comme un culte raisonnable. Hein? Alléluia! Voilà, donc effectivement, nous désirons que notre Seigneur soit respecté, qu'il soit honoré, et nous comprenons que notre attitude va justement contribuer à cela, ou non, mais j'espère que le « ou non » ne nous concernera pas.
Amen.
Alors on va considérer cette femme, et on va voir qu'elle est sage. Il y a été souvent question de sagesse ces derniers temps, je crois que l'Église a vraiment besoin d'une piqûre de rappel dans ce domaine-là. Elle sait examiner les choses. Elle sait discerner les choses. Elle sait prendre les bonnes décisions. Amen. Elle est organisée. Elle est méthodique. Elle est prévoyante. Il nous est dit qu'elle fait venir son pain de loin. Vous savez, il y a des gens, ils sont toujours plus dépourvus. Ils sont plus dépourvus. Ils ne savent pas prévoir, ils ne savent pas anticiper. Ils sont contraints d'improviser. Mais elle prépare les choses afin qu'il ne manque rien. Alléluia. Et j'ai dit qu'elle savait prendre des décisions, on y reviendra, et elle sait prendre les bonnes décisions. Amen. Il y a des gens, malheureusement, ils prennent les mauvaises décisions. Et parfois, on se demande comment ils ont pu faire. Il y a des cas où on peut peut-être comprendre, et des fois, on se dit, comment c'est possible? C'était tellement fait d'avance. Comment ont-ils pu faire un si mauvais choix? Alors peut-être précipité, sans doute lié aux aspirations de la chair, mais il nous faut savoir poser les choses et prendre les bonnes décisions. Et ce qui me fâche le plus, si je puis dire ainsi, c'est quand les gens prétendent avoir pris leurs décisions sous l'impulsion de l'esprit. Et qu'en réalité, c'est un fiasco. C'est terrible quand même. C'est terrible. Je suis fatigué d'entendre des gens qui sans cesse disent que c'est le Seigneur qui leur a dit, et quand on voit le fruit, on se dit, non seulement, bien sûr, c'est pas le Seigneur, mais ça contribue à déshonorer le nom de Jésus.
Amen.
C'est vrai. C'est terrible. C'est terrible. Alors, sachons prendre des bonnes décisions. Amen.
Amen.
Et finalement, nous assumer nos responsabilités pour voir systématiquement que ce soit le Seigneur qui ait été à l'origine. Béni soit Dieu, il nous inspire, il nous conduit, sa parole nous conduit. Mais nous prenons nos décisions en vertu de la parole. Alléluia. Cette femme est donc capable de prendre des décisions, elle est capable d'entreprendre des choses, de former des projets. Il nous a dit qu'elle pense à un champ, elle réfléchit à ça, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, et puis finalement, est-ce que j'ai les moyens? Et puis, elle va acquérir ce champ. Elle sait former les projets. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, ils vont ne jamais former de projet, ou en tout cas, ils voudront toujours prétendre que c'est le Seigneur qui leur a dit. Encore une fois, je reviens. Il y a des situations où, ouïouïouï, on se dit, mais non, le Seigneur ne peut pas se tromper à ce point-là. Et nous ne sommes pas des mulets sans intelligence, nous dit la parole de Dieu. Et nous avons la possibilité, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions former des projets. Bien sûr, en les soumettant à Dieu. Vous savez, parfois même dans le service, vous avez des gens vous proposer aux gens de servir dans l'église. J'attends que le Seigneur me le dise. Ah oui, ils vont attendre longtemps. Hein, parce que généralement, ils n'ont pas envie. J'attends que le Seigneur me le dise. Alors, bien sûr, là aussi, on soumet ça à Dieu. On comprend. Mais il y a aussi des gens qui se réfugient derrière ça, qui n'ont jamais rien fait. C'est dommage. Bon. Il arrivera, je le crois, des situations où nous recevons une injonction de Dieu. Mais il y a bien des situations où nous allons devoir être en capacité d'examiner les choses et de prendre des décisions. et d'entreprendre des choses. Alléluia.
Amen.
Serions-nous incapables de cela? Ça ne correspond pas à ce que Dieu a voulu, finalement. Alléluia.
Amen.
Dieu veut que nous soyons capables d'examiner les choses et d'entreprendre en comptant sur lui, en lui remettant les choses. L'apôtre Paul formait des projets. On constate que parfois, les projets ont été contrariés par Dieu ou par Satan, mais ça n'empêche qu'il savait former des projets. Il savait aussi être à l'écoute de la voix de Dieu, quand Dieu d'ailleurs pouvait lui dire, voilà, ben c'est pas là, c'est là qu'il va aller. Bien sûr, hein. Alléluia. C'est une femme qui ne stagne pas. Mais nous l'avons vu, elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle va développer à partir de cela une activité. Je crois que l'Église doit être capable d'avancer, d'aller de l'avant, ne pas stagner. L'Église doit former des projets. Alléluia. Alléluia. Quand et Dieu était derrière ça aussi, bien sûr, quand on a constaté que l'Église pouvait apporter quelque chose sur le plan de l'aide alimentaire. D'ailleurs, le nom qui a été donné, c'était un champ nouveau, dans la pensée d'un champ d'action nouveau. Mais maintenant, il peut y avoir d'autres champs nouveaux pour l'Église. Alléluia. Amen.
Hein?
Et il faut que l'Église ait ce désir de développer les choses selon la capacité qui nous a été allouée, bien sûr, hein? Sans doute avec l'assistance du Seigneur et même nécessairement, bien sûr, hein? Mais nous ne voulons pas stagner. Nous voulons aller de l'avant. Alléluia.
Amen.
Quand elle parle, elle fait du bien. Quand elle parle, elle fait du bien. Il est dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa parole. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, ils disent, ça va être chaud bouillant. Mais le chrétien, la chrétienne, quand il ouvre la bouche, il doit sortir des paroles de sagesse. Des paroles aimables, non pas mielleuses, comprenez bien, on n'est pas là pour être des mielleux, mais toutefois, on doit dire les choses avec amour. Alléluia. Ce qu'elle dit est édifiant. C'est édifiant. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, ils disent, c'est oiseux. Oh, quelle banalité. Oh, quelle misère. Et puis vous avez des gens, quand ils parlent, c'est désagréable. C'est désagréable. C'est triste, hein? Voire méchant. Le chrétien doit parler à bon escient pour construire, pour édifier, pour procurer la paix, procurer du bien. Alléluia.
Amen.
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 Alléluia. C'est Paul qui dit au Colossiens, chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Accompagnée de grâce. Et non pas de disgrâce. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, le problème parfois, pour nous tous, c'est qu'on a répondu avant même qu'il fallait qu'on réponde. Parfois, on n'a même pas pris le temps d'écouter, on a déjà répondu. On a répondu à côté. Parfois, on a répondu moi. Hein? Il y a des gens, parfois, vous parlez avec eux, mais tout de suite, ils transforment la conversation. Ah, mais moi. Bon. Parfois, on n'écoute pas. C'est vrai pour tous. Hein? Il faut savoir écouter, il faut savoir répondre à propos. Et ça nous est arrivé, je pense, à chacun d'avoir répondu trop vite et d'avoir répondu à côté, malheureusement. Alors, sachons écouter aussi. Alléluia. Il y a une traduction concernant cette femme qui ouvre sa bouche avec sagesse et il nous a dit que des instructions aimables sur sa langue. Une traduction dit la loi de la bonté est sur sa langue. La loi de la bonté est sur sa langue. Je répète là. La loi, comme une loi, un principe de la bonté, est sur sa langue.
Amen.
Qui est bon?
Dieu.
Amen. Et Dieu nous demande d'être bon. Et quand nous parlons d'être bon, parfois on entend des gens, quand ils parlent des autres, ça nous fait souffrir. Ils semblent avoir un mépris vis-à-vis de l'autre. Mais je vais vous dire, même par rapport aux hommes politiques, etc., soyons respectueux. Soyons respectueux. D'ailleurs, le Seigneur dit que ce que nous voudrions que les hommes fassent pour nous, faisons-le leur. Et je rajoute toujours ce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent à notre égard, nous ne faisons pas à l'égard des autres. C'est vrai. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Alléluia.
Amen.
Elle est courageuse. Elle est travailleuse, vous avez vu, elle travaille beaucoup moi-même. Elle ne mange pas du pain de la... Elle ne mange pas du pain de la paresse. C'est une réalité. Il y a des gens paresseux. Il y a des gens qui sont paresseux. Et j'ai remarqué que parfois le paresseux contient des grands discours. Quoi ? Il fait des choses, en fait, il n'y a rien. Mais si vous vous arrêtez au discours, seulement, je vous l'ai déjà souvent dit, les discours c'est une chose, moi je regarde quand même les faits, la réalité. Il y a des gens qui nous ont tenu des discours, oh, oh, oh. Et après, avec le temps, on a dit, oui, il n'y a rien du discours. Ils se vantent de choses qu'ils n'ont pas faites, qu'ils n'ont pas vécues, etc. On me rappelle d'un gars, malheureusement, je crois qu'il était paresseux, tout simplement, mais il avait tout fait. Mais la seule fois où j'ai vu faire quelque chose, je me suis dit, pourvu vite fait qu'il arrête. Le livre des Proverbes dénonce la paresse. Et la paresse, elle peut être dans de nombreux domaines, bien sûr, qui n'ont pas envie de travailler, etc. Mais c'est aussi la paresse spirituelle. On peut être paresseux. On est paresseux, on lit pas la Bible. On est paresseux pour faire ce que Dieu nous demande de faire. On n'est pas motivé. On se laisse aller à la paresse. C'est vrai, la paresse, c'est un mauvais témoignage. Si un chrétien est paresseux, ça laisse un mauvais témoignage. Cette femme n'est pas paresseuse. Alléluia.
Amen.
Je disais cela, je n'avais pas prévu. C'était avant même que je sache sur quoi je prêcherais, mais ça m'avait frappé. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Alors, je vous ai dit, il faut faire attention. Parce que quand il ouvre la bouche, il se proclame lui-même. Hein. Mais ce n'est pas un discours. C'est ce qu'on est réellement. C'est ce que l'on fait réellement. Alléluia. Cette femme prend soin de sa maison. Vous avez vu, elle veille. Hein. Elle veille afin qu'il ne manque rien. Que tout aille bien. Que tout se passe bien. Qu'il soit pourvu à tout ce qui est nécessaire. Et nous devons veiller sur nos maisons. Alléluia. Et on voit beaucoup de désordre dans des maisons. Désordre matériel. Désordre financier, parfois. Désordre dans l'éducation des enfants. Livrés à eux-mêmes, livrés aux écrans, livrés à la télévision. C'est l'enfant qui commande maintenant dans une maison. Je n'arrive pas à l'église, donc c'est bien mon fils. Moi, j'essayais ça quand j'étais petit. J'étais toujours malade le dimanche. Et ça ne marchait pas. Du désordre. Mais Dieu est un Dieu. Alors, on sait combien la famille est importante. Hein. La cellule familiale est importante. Alléluia. Et la cellule chrétienne d'autant plus, bien sûr. Concernant les diacres, il est dit qu'ils doivent bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Et c'est vrai aussi pour les anciens. La Bible dit que s'ils ne savent pas tenir leur maison, gérer leur maison, comment ils vont tenir l'église? Ça ne peut pas aller. On doit d'abord tenir sa maison. De savoir tenir plus grand, si on peut dire. Alors que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'ai connu des gens qui travaillaient avec des comptables. Je pensais tout à l'heure à un monsieur qui travaillait dur, mais ils étaient désordonnés dans les dépenses. Ils étaient toujours dans les lettres, mais des gens me disaient, mais dès qu'il y a 3 sous qui arrivent, ils vont acheter un plateau de fruits de mer. Je ne suis pas contre, mais le lendemain, il n'y avait plus de sous. Mais ce qui est terrible, c'est que cet homme a fini par se pendre. Désespéré par les huissiers qui venaient sans cesse frapper à la porte. Et pourtant, les gens de la ville disaient, il est courageux, il travaille. Mais alors, on l'a encore activé, sa femme elle dépense tout. Il faut savoir être organisé et gérer.
Alléluia.
C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour chacun en particulier, bien sûr. Amen. Cette femme est fidèle. La fidélité. Vous savez que de nos jours, j'entends même des candidats politiques, évidemment, vu l'exemple que certains d'entre eux montrent, la fidélité dans le couple, c'est quelque chose c'est du passé, ça. C'est les réacs. J'ai l'impression que de nos jours, un couple fidèle, c'est devenu comme une anomalie. On va les mettre dans un parc et on ira leur lancer des cacahuètes. Il me semble que la fidélité, c'est quand même un principe, en tout cas dans l'Église. Les familles chrétiennes doivent être marquées par la fidélité. Or aujourd'hui, parce qu'il y a de l'infidélité un peu partout, du désordre, eh bien, il y a des chrétiens qui sont aussi infidèles. C'est terrible. Le mariage doit être honoré de tous, nous dit la Bible. Mais la valeur du mariage aujourd'hui dans l'Église, on a l'impression que ça s'effondre. Et vous savez, quand ça s'effondre, c'est la société qui s'effondre. C'est terrible. Alors je souhaite que l'Église soit composée de couples où la fidélité règne. Alléluia. Amen. Amen.
Amen.
Sur le plan spirituel, sommes-nous fidèles au Seigneur? Sommes-nous fidèles au Seigneur? Et finalement, quand on ne respecte pas des choses telles que je viens d'énoncer, on a beau dire, moi j'ai même connu quelqu'un qui me dit « chante dans la chorale ». Oui d'accord, enfin ici non. On va remettre de l'ordre dans sa vie quand même. Il faut respecter il y a des principes, on ne peut pas échapper quand même. Il y a des fondamentaux, il y a des bases. Alléluia.
Amen.
Amen. Que nous puissions être fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un réalise et dit là j'ai été infidèle, eh bien, c'est vrai que parfois, je le disais hier, parfois on est sentimentaux, on entoure les gens, mais il y a des choses, il faut quand même régler les choses. Et c'est pour le bien des gens, parce que, vous savez, il y a des enjeux spirituels. Et nos désordres ont un impact dans le monde spirituel et retombent sur nous. Donc on a intérêt, je pense que c'est préférable de dire, je veux mener ma vie en accord avec l'enseignement de la parole du Seigneur. Et puis, il y a la fidélité dans le service, bien sûr. Quand on s'engage à faire quelque chose, on s'engage à le faire avec sérieux, avec fidélité. Amen.
Amen.
Vous connaissez cette parabole de ce maître, de ce seigneur qui a donné des talents à des serviteurs, et à deux d'entre eux, il va pouvoir dire « Tu as été fidèle. Dans peu de choses, dans ce que je t'ai confié, tu étais fidèle. » Mais le troisième, il n'a rien fait. Il a peut-être voulu en disant j'ai reçu moins que les autres, etc. Mais ce qui ressort de sa propre bouche, vous savez, nos bouches, il est toujours pas révélé qui nous sommes, c'est qu'en fait, il n'aimait pas son maître. Et je me suis posé la question, si je ne suis pas fidèle, est-ce que cela ne révèle pas qu'en réalité, je n'aime pas tant que cela le Seigneur Jésus? D'ailleurs, Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, donc il y a la fidélité à la parole. Et si je prends un engagement dans la maison de Dieu, attention, c'est pas simplement à l'égard du pasteur ou des frères et sœurs, c'est important tout cela, mais c'est aussi à l'égard du Seigneur. Alléluia. Mais de toute façon, même à l'égard des autres, c'est aussi une preuve d'amour. Si je m'engage et que je ne le fais pas, ça veut dire que je ne considère pas tant que ça en vérité. Hein. Je t'aime bien mon frère, ma sœur, mais bon, là encore, plus que les discours, je préfère les actes. Les démonstrations. Alléluia.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on est fidèle à la parole, fidèle dans ce que nous avons décidé de faire, sur quoi nous nous sommes engagés? Et on sait que si quelqu'un est fidèle, on peut compter sur lui, alors pour autre chose. Alléluia.
Amen.
Elle est généreuse. Elle est généreuse. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. On a déjà abordé ce sujet. Hein. L'Église est-elle généreuse? Les chrétiens sont-ils généreux? Et on l'évoquait notamment aussi dans la prière. Est-ce qu'on a le souci de ceux qui sont dans la peine, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans la détresse? Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce que
on a vraiment cela à cœur.
Si l'Église est recroquevillée sur elle-même,
vous savez, j'ai vu des gens parfois, ils ne pensent qu'à eux.
Eh bien, ils ne prospèrent pas, hein.
Ça stagne.
Si quelqu'un n'est recroquevillé que sur lui-même,
alors, mais s'ouvrir, c'est aussi ouvrir les choses de Dieu.
Alléluia.
Amen.
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 Une Église généreuse bénéficiera de la générosité de Dieu. Un chrétien généreux, et je ne parle pas seulement de finances, comprenez, hein, c'est dans la préoccupation des autres, c'est dans la prière, etc., dans l'intercession.
Ce chrétien-là sera béni du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Cette femme éprouve du plaisir dans ce qu'elle fait. Elle sent que ce qu'elle fait est bon. Elle a du plaisir. C'est pas forcément toujours facile. Vous avez vu, regardez ces journées, elles sont bien remplies. Parce qu'on a l'impression qu'elle dort peu finalement, elle travaille beaucoup. Tout ce qu'elle fait doit quand même aussi parfois lui susciter quand même des difficultés. Mais elle a du plaisir. Il faut qu'on ait du plaisir à faire ce qu'on fait pour le Seigneur. Mais au-delà, finalement, qu'on ait du plaisir à faire ce qu'on fait. Et si on le fait selon le Seigneur, je crois qu'il y aura du plaisir.
Alléluia.
Dans l'aide alimentaire, c'est une chose à laquelle je pense régulièrement. Il faut que les gens qui s'impliquent, nos bénévoles, aient du plaisir à faire ce qu'ils font.
Amen.
C'est pas toujours facile. Vous tombez parfois sur des ingrats. Ce qui me fait le plus de peine, c'est quand c'est un chrétien, alors je mets des gros guillemets. Parfois, il y en a qui arrivent. Je suis un frère, je suis une sœur. Donc, mais quand l'ingrat prétend connaître le Seigneur, ça me gêne. Que l'incroyant puisse être comme ça, on se dit, ben voilà, mais que quelqu'un dise, je connais le Seigneur, et qu'il manifeste de l'ingratitude, ou qu'il a une mauvaise attitude, je trouve ça déplorable, quand même. La Bible insiste sur la nécessité de la reconnaissance. Mmh. Alléluia. Mmh. Soyons reconnaissants, et la Bible dit qu'on devrait être les premiers dans les bonnes œuvres. En toute chose, on devrait être les premiers. L'Église a été dépassée. Au départ, les restos du cœur, si j'ose dire comme ça, c'était l'Église. C'est l'Église qui prenait soin des pauvres, etc. On a été dépassés dans beaucoup de domaines. Bon, on va dire qu'on a montré un exemple. Mais on devrait être les premiers, nous dit l'apôtre Paul, à titre, c'est ce qu'il dit. Il faut que les nôtres apprennent à être les premiers dans les bonnes œuvres.
Alléluia.
Amen. Ça s'apprend aussi. Alors, elle éprouve sûrement de la fatigue. Elle éprouve sûrement de la souffrance, mais ça n'affecte pas son plaisir, ça n'affecte pas sa joie. Et je pense que ce plaisir et cette joie, ça se communique. C'est vrai. Quand vous avez quelqu'un qui respire comme ça le bien-être, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Alléluia. Barnabas est un homme qui procurait du bien.
Alléluia.
Pièce de consolation, d'exhortation. Alléluia. Un autre homme, j'ai oublié son nom, mais Philémon, c'est quelqu'un qui procurait du bien. Il faisait du bien aux entrailles des saints, nous a-t-il dit. C'est beau quand le chrétien procure du bien. Parfois, la présence de quelqu'un, ça change l'atmosphère. Ah, la sœur Intel est rentrée dans la salle, là, il y avait la grâce tout autour et grande la grâce. Alléluia. Je souhaite qu'on soit tous comme ça. On procure que quand on vient, ça soit vraiment quelque chose de très positif.
Alléluia.
Alors, il nous est dit au verset 10. Il peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. La version de la Bible, d'autres versions d'ailleurs, disent son prix est bien au-delà des rubis. Et dans les proverbes, trois fois, avec celle-ci, quatre fois, il y a une question de rubis. Et à chaque fois, c'est en lien à la sagesse. En lien avec la sagesse. Proverbe 3, verset 15. La sagesse est plus précieuse que les rubis. Les perles dans nos traductions. Proverbe 8, verset 11. Car la sagesse est meilleure que les rubis.
Alléluia.
Amen.
Vous savez que tout le bijoux, finalement.
Ayons la sagesse comme bijoux. Alléluia.
Amen.
Proverbe 20, verset 15. Il y a de l'or et beaucoup de rubis, mais la connaissance sont un vase de cire.
Alléluia.
Amen.
Ce qui caractérise cette femme, finalement.
Est-ce qu'il doit caractériser l'Église collectivement? Est-ce qu'il doit caractériser les chrétiens?
C'est la sagesse.
Elle est sage dans ses actes. Elle est sage dans ses pensées. Elle est sage dans ses projets. Elle est sage dans ses décisions. Elle est sage dans la manière dont elle va comprendre les choses. Elle a pensé un champ, elle l'acquiert, ensuite elle le fait fructifier en disant « on va planter une vigne ». Il y a de la sagesse dans tout ça. Elle sait que c'est bon, elle sait que c'est utile, elle sait que c'est bénéfique. Et sans aucun doute même, elle se dit « c'est pas seulement pour ma maison, ça va bénir un grand nombre de personnes autour de moi ». Alléluia. Elle est sage dans ce qu'elle dit.
On l'a dit, quand elle ouvre la bouche, c'est sage.
Alléluia. Amen. La sagesse va caractériser le chrétien. Dans ce qu'il dit, tout doit être selon la sagesse. Et vous savez, dans le livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée. Et qui est la sagesse?
C'est Jésus.
Amen. Alléluia.
Amen.
Jésus, la sagesse était avec Dieu au commencement. Dieu a créé les choses avec sagesse, avec la sagesse, avec Jésus. Et puisque l'époux est sage et que c'est ce qui le caractérise, l'épouse doit être sage.
Alléluia.
Alléluia. L'Église doit être sage. On voit donc la sagesse dans l'activité de cette femme, dans ses propos, dans ses projets, dans ses relations, dans la famille et dans la société. Tout ce qu'elle fait est conduit par la sagesse, et de ce fait-là, elle procure du bien notamment à son mari, à sa maison, mais aussi autour d'elle. Jusqu'aux portes de la ville où les anciens saluent et
à l'époque, sur la même société, quand même, on veut plutôt les hommes en avant. Hein.
Alléluia.
Amen.
Sa sagesse a un impact. Et de la même manière que finalement, tout ce qu'elle fait, eh bien, est fait aussi pour que ça rejaillisse positivement sur son mari, eh bien, l'Église, dans sa sagesse, désire que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, soit non pour sa propre gloire, mais pour la gloire de son époux. Alléluia. Tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions, que ce soit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous ne recherchons pas notre gloire, nous recherchons la gloire du Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Nous souhaitons que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, ce que nous disons soit édifiant et surtout contribue finalement à valoriser le nom de notre Seigneur.
Amen.
Amen.
Vous savez, dans le couple, quand le couple est bien uni, on pense à l'un, on pense à l'autre, on pense aux deux. Mais je souhaite que quand les gens pensent à l'Église, ils puissent automatiquement penser à Christ. Non pas une organisation, une institution humaine, mais l'épouse de Christ.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Alors nous avons certainement besoin de beaucoup de sagesse, je l'ai dit, dans ce que nous pensons, dans ce que nous décidons, dans ce que nous proclamons, dans la manière dont nous disons les choses. J'ai rencontré des gens qui sont venus me dire « Oh là là, on n'en veut plus, on n'en veut plus d'entendre telle personne qui nous parle sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse de Dieu ». On sait, mais plus nous en parle, plus on a, moins on a envie d'entendre. Et en fait, ce qu'il faut là, c'est pas seulement de dire, c'est de montrer, d'avoir une démonstration, de donner envie. Alléluia! De donner envie. Je vous l'ai dit quand des gens m'ont témoigné au départ, comme j'étais plutôt fâché un peu contre les choses de Dieu, je me suis dit, pourvu qu'ils m'embêtent pas avec ça. Et la dame qui était une grande bavarde, conduite certainement par le Seigneur, a su ne pas trop en dire. Mais j'ai observé et j'ai vu qu'il y avait réellement quelque chose qui venait de Dieu. Et c'est ce que j'ai vu qui m'a donné envie.
Amen.
Dans son temps, elle
en parler un petit peu, bien sûr, il faut se couvrir un peu. Hein. On sache tout ça bien quand même. Et puis, ça dépendra peut-être des personnes avec qui il faudra insister. Mais en tout cas, pourquoi je veux insister, c'est que ce sont les actes, leur vécu qui a fait qu'un jour, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Françoise, dimanche, on va à l'église évangélique. Je me demandé ce qui se passait.
Amen.
Eh oui. Alors, donnons envie. Et parfois, il faut du temps. Je ne sais plus combien de temps m'a fallu, peut-être un an et demi, deux ans. Parfois, il faut du temps. Mais si nous nous comportons comme il se doit, si nous manifestons réellement les choses selon Dieu, les gens savent voir. Vous savez, même par rapport aux politiques aujourd'hui, les gens finissent par dire on est lassé des discours, on sait bien, on dit, ils y font. Je ne prends pas position quand je dis ça, mais c'est pour illustrer le fait que les discours, c'est une chose, c'est l'acte, ce sont les actions qui ensuite vont conforter et confirmer les choses. Alors soyons vraiment de ceux qui donnent envie.
Amen.
Si peut-être nous réalisons que parfois notre langue fourche un peu trop, nous avons des propos qui ne sont pas édifiants, qui sont peut-être même plutôt démoralisants, puissions-nous monter notre langue, qu'elle soit inspirée par la sagesse de Dieu. Alléluia.
Amen.
Savoir quand il faut parler, quand il faut se taire. Amen. Nous commettrons des erreurs. Quand je dis que nous sommes dotés d'une intelligence et que nous devons être en capacité de réfléchir et d'entreprendre, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir, mais je crois que toutefois, si on sait venir au Seigneur, le Seigneur saura effectivement eh bien, nous avertir quand cela est nécessaire. Parfois par la prédication. Je termine par là. Je me rappelle il y a très longtemps, avoir prêché sur les disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, et l'avoir reçu comme une parole prophétique par rapport à quelque chose qui arriverait plus tard. Et là, on réalise que Dieu vous prépare et vous dit qu'il y aura un problème. Et justement, il faudra que tu aies à ce moment-là la bonne attitude. Alléluia. Et la prédication peut aussi servir, et je crois que la prédication est une prophétie. Pour dire, voilà, souviens-toi le moment venu où ce qui a été prêché, tu adopteras la bonne attitude et tu en sortiras vainqueur. Car Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Et les difficultés peuvent venir de toutes parts, même parfois de l'intérieur de l'Église. Mais si nous avons la sagesse de Dieu, si nous avons su écouter, si nous avons su recevoir dans notre cœur, alors nous allons pouvoir dire « Ah Seigneur, tu m'avais préparé !» Alléluia.
Amen.
Si vous lisez jamais la Bible, il n'a pas vous préparé. Et en lisant la Bible aussi parfois, ça vous arrive, je pense. Ce que vous lisez là, ça vous prépare, parce que ça va arriver. Alléluia. Alors, on va dépoussiérer les Bibles peut-être pour certains. Je ne voudrais pas dire ça, mais je crois que parfois il y a même des livres en poussière. Et je termine avec ça, et je termine pour de vrai. C'est cette femme qui se plaignait du Seigneur parce qu'elle avait perdu de l'argent. Elle ne trouvait plus son argent. Je ne sais plus combien, mais c'était un gros billet sûrement. On va dire un billet de 500 euros. Le pasteur vient, il écoute les éditions de Lamentation, il dit « Vous cherchez votre Bible. » Ouvrez-la, et quand elle a ouvert la Bible, le billet était dedans. C'est une histoire vraie. Elle a fermé la Bible, elle était fâchée à l'égard de Dieu. La solution était là. Bon, réouvrons nos cœurs et nos Bibles. Ouvrons les Bibles, ouvrons les cœurs. Alléluia. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Et Seigneur, c'est vrai que parfois, on le sait, on a manqué de sagesse. Et puis on sait que l'Église a vraiment besoin de toute la sagesse de Dieu. Et bien sûr, tu nous demandes de la demander à Dieu, mais en même temps, une fois que nous sommes instruits, il faut que nous mettions en pratique. Alors aide-nous. Nous voyons beaucoup de désordres, Seigneur, parce qu'il n'y a pas toujours la fidélité à ta parole. Il y a des mises en question, des mises en doute, tout simplement. La chair fait que nous ne faisons pas ce qui devrait être fait. Mais Seigneur, au contraire, justement, nous voulons revenir à toi. Être fidèle à ta parole, remettre en ordre ce qui doit être remis en ordre, savoir parler à bon escient, avec sagesse, apporter et procurer du bien, savoir être, Seigneur, organisé, discipliné, savoir être capable aussi, évidemment, d'entreprendre, d'assumer aussi nos décisions, nos choix, et ne pas vouloir systématiquement prétendre que c'est Dieu qui est derrière, quand surtout quand ça ne l'est pas. Donne beaucoup d'humilité à ceux qui, Seigneur, malheureusement, use tant et tant de ton nom, et si souvent ça n'est
ça n'est pas à propos. Seigneur, fais grâce et pardonne, parce que c'est un manque de sagesse qui a des effets dévastateurs, malheureusement. Seigneur, donne-nous et aide-nous, et nous-mêmes, nous voulons décider, Seigneur, de faire les choses selon la sagesse, et qu'on fait ce que nous pouvons faire ensemble, collectivement, mais aussi chez nous individuellement, tout ça puisse contribuer à la gloire de Dieu, Seigneur, parce que c'est quand même bien ça le plus important. Amen.
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 Amen.